CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné par Sylvain Bersinger, économiste. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, on s'intéresse au cinéma action.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Et c'est l'histoire de deux entrepreneurs encore indissociables que nous allons vous raconter. Leurs noms sont désormais plutôt liés dans l'industrie, mais ils ont été par le passé plutôt synonymes de compétition. Charles Pathé et Léon Gaumont sont les entrepreneurs du jour. Sylvain, ça commence en 1863 avec la naissance de Charles Pathé.
Oui, en effet, Charles Pathé est né en 1863, donc en Seine-et-Marne, dans la banlieue est de Paris. Alors très loin du milieu du cinéma, il faut le dire. Donc ses parents sont des charcutiers à Vincennes.
Ah ouais.
Et ils ambitionnent pour leur fils de reprendre la charcuterie familiale. Mais le fils n'a aucun intérêt pour la charcuterie. Donc Charles Pathé, c'était un élève, on va dire, assez médiocre. Il n'a jamais trop aimé l'école. Il n'a jamais trop réussi à l'école. Il a fait une formation d'apprenti charcutier qui était, on va dire, tracée par ses parents. Mais ça ne lui plaît absolument pas. Et il part faire fortune en Argentine. Quoi faire fortune ? Essayer de faire fortune en Argentine.
C'est bizarre comme pays d'aller en Argentine.
En fait, pas du tout. Parce qu'à l'époque, l'Argentine était très prospère. Hein. Les immigrés partaient autant à New York qu'à Buenos Aires. L'Argentine est un des pays les plus riches du monde. Et ensuite... L'Argentine a connu une série de crises successives et c'est aujourd'hui un pays, pas un pays pauvre, mais un pays qu'on considère en développement. D'ailleurs, il y a une citation en économie où on dit qu'il y a quatre types de pays, les pays riches, les pays pauvres, l'Argentine et le Japon. Donc en gros, les riches, les pauvres, ceux qui étaient pauvres et puis qui sont devenus riches, le Japon, et ceux qui étaient riches et qui sont devenus pauvres, l'Argentine. Donc c'est un peu un cas à part, l'Argentine. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un pays très prospère et beaucoup de jeunes aventuriers allaient y tenter leur chance, dont Charles Pathé.
Ça a marché en Argentine ?
En fait, on n'a pas énormément d'informations, mais disons pas trop. Il semblerait qu'il se soit engagé dans des activités, on va dire, moyennement légales, de contrebande et autres. Et il serait parti d'Argentine assez précipitamment parce qu'il aurait fait de l'ombre à des gros bras ou des gens pas très fréquentables qui l'auraient un peu menacé. Et donc, il est revenu assez rapidement.
Il fallait revenir, quoi.
Ouais, il fallait revenir, on va dire ça comme ça. Et donc, il est revenu à Paris où il n'avait pas vraiment de métier parce qu'il ne voulait pas reprendre, il ne voulait pas se lancer dans la charcuterie. Donc, il fait plusieurs métiers. Il lance des guinguettes dans les foires, etc. Bon, ça marche, disons plus ou moins bien et même plutôt moins que plus. La première révélation, entre guillemets, c'est en 1894, il découvre le phonographe d'Edison, donc qui était à l'époque une invention révolutionnaire.
C'est une révolution. Ouais.
Et son idée, c'est d'utiliser le phonographe et d'aller le faire écouter, le faire jouer sur les foires. Et donc, il devient en fait un peu forain, quoi, avec ce phonographe. Donc, il passe de foire en foire et puis il découvre une autre invention de Thomas Edison, qui est le kinétoscope. Donc aujourd'hui, le cinéma, on l'a sur grand écran, ça nous paraît évident. Mais au début, le entre guillemets cinéma tel qu'inventé par Edison, ça se regardait dans une petite boîte. Hein, c'était une espèce de boîte où il y avait une fente. Et on regardait par la fente un film. Alors on dit film, mais ça durait à l'époque à peu près une minute. Hein, c'était vraiment des formats très courts. Et donc ce kinétoscope d'Edison, il en achète quelques exemplaires et il va, pareil, sur les foires, de foire en foire, et les gens payent pour regarder un petit film. Et donc c'est comme ça qu'il met, on va dire, un premier pied dans le monde du cinéma. Et la grande révélation pour lui, c'est le 28 décembre 1895. C'est une date très célèbre dans l'histoire du cinéma, puisque c'est la date qu'on considère comme étant la date de naissance du cinéma, la date où les Frères Lumière projettent à Paris, à l'hôtel Scribe, leur film, et présentent leur invention. Donc, d'ailleurs, il y a toujours une plaque, hein, boulevard des Capucines, qui rappelle l'événement. Pathé, qui était un petit peu dans le milieu du cinéma naissant et au courant de cette projection, il va voir, et pour lui c'est une révélation, il voit le cinéma sur le grand écran et il se dit c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors il sait pas encore comment il va le faire, mais il se dit c'est là qu'il faut que j'aille.
Donc un vrai parcours d'autodidacte pour Charles Pathé.
Alors 100% autodidacte, hein. C'était pas du tout un scolaire, pas du tout un intellectuel, c'est vraiment un impulsif, un baroudeur qui fonce, en fait, un fonceur, disons. Il voit le cinéma naissant et il se dit c'est génial, il faut que j'y aille, et il apprend sur le tas comment faire du cinéma. Il invente le métier, en fait.
L'histoire de Léon Gaumont, elle est différente et elle commence un an après la naissance de Charles Pathé. C'est en 64 que naît Léon Gaumont.
Oui, donc Léon Gaumont est né en 1864, donc à Paris. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste. À la différence de Charles Pathé, et c'est important parce qu'ils ont vraiment deux caractères très différents. Lui, Gaumont, c'est un studieux. Il aime bien l'école, il est bon élève. Alors, il doit quitter l'école parce que vu qu'il est dans un milieu très modeste, dès 16 ans, il faut qu'il gagne sa vie. Donc, il doit quitter l'école. Après, il prolongera sa scolarité et sa formation avec des cours du soir. Mais lui, il a beaucoup plus le profil de l'intellectuel, de l'ingénieur, du scientifique. C'est pas du tout le même profil que Pathé. Lui est beaucoup plus réservé, alors que Pathé est beaucoup plus commercial. Il a beaucoup plus la tchatche, disons. Et donc Gaumont, il fait divers petits boulots parce qu'il a pas le choix. Il faut qu'il gagne sa vie. Et il va son premier travail, on va dire un peu important, en 1881, il va être donc secrétaire chez une usine d'appareils de précision. Il continue à se former, très important. Il aime les études. Il aurait aimé faire des grandes études. Il a pas pu pour des raisons matérielles. Donc, il continue à se former sur son temps libre. Ensuite, il va être directeur d'une fabrique de lampes à incandescence. Et il va, en 1894, obtenir la direction d'une entreprise qui s'appelle le Comptoir Général de la Photographie, qui fait du matériel photographique. Donc, c'est en fait par la photographie qu'il va petit à petit arriver au cinéma. Et donc Gaumont, c'est un profil d'inventeur au sens ingénieur, c'est-à-dire qu'il cherche constamment des nouvelles techniques. C'est un bricoleur, il bricole ses appareils pour essayer de les améliorer. Et donc il travaille dans cette entreprise de photographie et il se dit « je vais essayer de faire des photographies en rafale ». Donc un premier pas vers le cinéma. Et donc lui aussi qui commence à s'intéresser à la photo et à l'animation de la photo, va être au courant de l'invention des frères Lumière. Alors lui, il ne va pas avoir la même réaction que Pathé. Pathé se dit « c'est le cinéma, c'est génial, il faut que je fonce ». Lui, il se dit « bon ben voilà, quelqu'un d'autre a réussi avant moi à animer les images, bon ben tant pis, je vais... »
Il lui a un peu damné le pion parce qu'ils l'ont fait plus rapidement que lui. Quoi.
Voilà, ils l'ont fait plus rapidement que lui, mais je dirais que c'est un bon joueur, un bon perdant. Il se dit « voilà, les frères Lumière ont été plus efficaces que moi, je vais faire autre chose, je vais travailler à une nouvelle invention ».
En 1895, Léon Gaumont a la possibilité de racheter l'entreprise pour laquelle il travaille.
Oui, donc il était directeur du Comptoir Général de la Photographie. Il était simplement salarié, même s'il dirigeait l'entreprise. Alors, l'entreprise est à vendre. Le patron précédent part à la retraite et souhaite vendre. Alors, Léon Gaumont, qui venait d'un milieu social très modeste, a eu la chance, on peut dire, de faire un mariage aisé. Donc, sa femme vient d'un milieu très, très aisé. Et grâce à la dot de sa femme, il peut racheter l'entreprise, qui devient d'ailleurs l'entreprise Léon Gaumont Annecy et compagnie. Et donc, il devient... pour la première fois, vraiment, le patron et le dirigeant de sa propre entreprise, Gaumont.
C'est la première société Gaumont, du coup.
Voilà, c'est la première société Gaumont qui, à l'époque, travaille dans la photographie.
Donc, des débuts différents dans le monde du cinéma pour Pathé et pour Gaumont, et même sur leur approche du cinéma, parce que Pathé, lui, va plutôt s'orienter vers la création de films, et Gaumont, lui, va plutôt s'orienter vers la création d'appareils pour faire les films.
Oui, donc Pathé, lui, c'était un forain. Il voit le cinéma et il se dit « c'est génial, il faut que je me lance là-dedans ». Donc, il commence à projeter ses propres films sur grand écran. Donc, à l'époque, les salles de cinéma spécialement dédiées au cinéma n'inventent pas. C'est d'ailleurs Pathé qui va les inventer. Hein. Au début, on est dans un bistrot, on tend un drap au fond du bistrot et puis on projette un film. Donc, encore une fois, on dit film, mais à l'époque, c'était des films d'une ou deux minutes. C'était des formats beaucoup plus courts. Et donc, Pathé se rend compte qu'en fait, il a très peu de films à projeter à ses spectateurs. Et donc, c'est pour ça qu'il va commencer lui-même à tourner ses propres films. Donc, dans les premiers, il est même lui-même figurant.
Il joue même lui dedans.
Voilà, donc c'est un acteur totalement improvisé. Et donc, il va s'orienter vers le côté, on peut dire, artistique du cinéma. Donc, faire des films, tourner des films. Et Gaumont, lui, c'est pas du tout son approche, puisque lui, on a dit, c'est un ingénieur, c'est un inventeur, un plus taciturne, et lui, il se préoccupe des produits. Il se préoccupe d'inventer, alors avant des appareils photo, maintenant des caméras. Donc il se préoccupe du produit, et l'aspect, on va dire, artistique de la chose, en fait, l'intéresse pas du tout. Donc il vient au cinéma, Gaumont, en fait, on pourrait presque dire un peu malgré lui. Donc une première fois parce qu'il est choisi par le président Félix Faure pour être son caméraman officiel, pour suivre ses déplacements, les filmer et faire des informations j'allais dire télévisuel, mais cinématographique, hein, puisqu'on l'a oublié, mais à l'époque, au début du cinéma, on allait au cinéma voir le film et voir les informations aussi au début du film. Donc il commence à faire un peu des prises de vue pour le président de l'époque. Et en fait, c'est sa secrétaire qui va lancer vraiment Gaumont dans le cinéma. Donc la secrétaire de Gaumont, qui s'appelait Alice Guy, elle a vraiment cette fibre artistique et elle se dit mais enfin ces caméras qu'on fabrique, il faut les utiliser, il faut faire des
films
avec,
il faut les promouvoir,
il faut les promouvoir, voilà, on va faire un film avec, montrer comme elles sont géniales. Et Gaumont lui est pas trop emballé, le côté artistique publicitaire c'est pas son rayon, et il dit à sa secrétaire bon bah ok, si tu veux sur ton temps libre tu tournes des petits films, si ça t'amuse très bien, mais tu fais ça le soir et le week-end. Et elle qui sent en fait un peu comme Charles Pathé, qui sent le côté artistique du cinéma, tourne des premiers films et devient en fait la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et c'est elle en fait qui va vraiment lancer Gaumont dans l'activité de production de films.
Ça va être la fibre artistique de Gaumont.
Voilà, la fibre artistique de Gaumont à ses débuts. Et c'est elle qui va notamment recruter Louis Feuillade, qui va être un des premiers grands réalisateurs français pour le compte de Gaumont.
Mais à l'époque, le cinéma, c'était pas vu obligatoirement comme quelque chose d'incontournable. On le voit notamment en 1897 avec l'incendie du bazar de la Charité.
Oui, donc à ses débuts, le cinéma, c'est un art qui, à l'époque, n'est même pas vraiment considéré comme un art, c'est considéré comme une curiosité. On va dire les élites, les classes instruites voient ça comme un art un peu populaire et avec un certain dédain. Et en 1897, effectivement, il y a un incendie au bazar de la Charité, donc qui était en fait une représentation cinématographique à laquelle assistaient beaucoup de dames de la haute société. Beaucoup sont morts dans cet incendie, donc ça a apporté un peu un discrédit au cinéma.
Mauvaise presse là.
Très mauvaise presse pendant plusieurs années pour le cinéma, qui a freiné le développement du cinéma pendant quelques années. Mais petit à petit, donc, le cinéma va gagner ses lettres de noblesse, notamment grâce à des inventions, grâce à l'amélioration de la qualité des films. Donc Pathé et Gaumont y ont énormément contribué, hein, c'est un peu eux, ils font partie vraiment des inventeurs du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc Gaumont sur l'aspect technique, hein, Gaumont c'est toujours un inventeur, il essaie d'inventer de nouvelles technologies sans trop se demander si elles sont rentables ou si elles sont applicables. Donc par exemple, il est précurseur dans le cinéma parlant. Dès le début du XXe siècle, il invente le cinéma parlant.
C'est le premier à le faire.
C'est le premier à le faire, mais le problème c'est que son procédé est tellement coûteux qu'en fait personne ne l'utilise. Tellement coûteux et compliqué à mettre en place sur les tournages que personne ne l'utilise.
Oui, parce que le cinéma est resté muet pendant de nombreuses années après encore.
Oui, c'est la fin des années 20.
Donc quasiment 20 ans après son invention.
Oui, même plus de 20 ans après son invention, puisque son invention était trop coûteuse pour être, trop complexe pour être utilisable. Et donc, même si c'est techniquement l'inventeur du cinéma parlant, son invention ne va pas se diffuser dans le monde du cinéma. Plus tard, il inventera le cinéma en couleur, mais toujours pareil, son procédé est trop coûteux et trop complexe, ce qui fait que le cinéma restera en noir et blanc pendant encore plusieurs décennies. Et Pathé, lui aussi, invente de son côté, mais il innove plus, comme on l'a dit, sur l'aspect artistique, sur la manière de promouvoir le cinéma. Donc, par exemple, il invente les premières salles fixes de cinéma, hein, puisqu'on l'a dit, avant, le cinéma, c'était un drap tendu sur un bout de mur, et puis voilà. Donc, les premières salles fixes, il invente une autre façon de distribuer les films, puisqu'au début, chaque salle avait 2-3 films qui tournaient en boucle. C'était des films de quelques minutes, donc les spectateurs se lassaient assez vite. Et donc, lui, en fait, loue ses films aux salles, et donc comme ça les salles peuvent faire circuler les films entre elles beaucoup plus facilement et donc proposer aux clients des films plus variés et attirer plus de clients. Il va inventer donc on pourrait dire l'ancêtre de la télé-réalité, puisque dans ses films Pathé il est assez racoleur, il met du sang, il met un peu des femmes dénudées, il met des potins, donc il flatte un petit peu le client, le spectateur, ce que Gaumont n'aime pas trop, mais Gaumont est un peu obligé de suivre parce que ça marche. Pathé est aussi précurseur dans les actualités sportives. C'est un peu le précurseur de tous les événements sportifs qu'on voit à la télévision aujourd'hui, hein. C'est un peu lui qui a inventé ça aussi. Donc tous les deux cherchent à innover, mais en fait, pas forcément sur les mêmes créneaux.
En tout cas, ces innovations vont faire que ces deux sociétés vont devenir des leaders mondiaux du cinéma à l'époque.
Oui, alors au début du XXe siècle, le cœur du cinéma mondial, il est à Paris, hein, très clairement. Il contrôle totalement voilà, la majorité du cinéma mondial. Et j'ai même lu dans une biographie que le cinéma en chinois à l'époque se disait pâté. Donc
c'est fou ça.
C'est une domination énorme de ces deux entrepreneurs sur le cinéma mondial, en fait jusqu'à la guerre de 14.
D'ailleurs, Pathé était souvent devant Gaumont en termes de succès.
Oui, Pathé, il est plus, on l'a dit, il perçoit plus ce que veut le public. Il est plus provocant. C'est un très bon commercial. Il donne au public ce qu'il a envie. Hein, et il invente, par exemple, les premiers héros récurrents. Donc c'est à l'époque Max Linder, hein, qui était l'énorme star de l'époque, complètement oublié aujourd'hui, mais qui était très connu et dont d'ailleurs Charlie Chaplin s'est inspiré. Quand on revoit des images de Max Linder, il a la canne et le petit chapeau, on se dit mais c'est Chaplin. En fait, c'est Chaplin qui d'ailleurs a reconnu hein, s'être inspiré de Max Linder. Donc Pathé, il innove vraiment sur la manière d'exploiter les films, leur potentiel vis-à-vis du public. Et Gaumont, lui, qui est beaucoup plus taciturne, beaucoup plus réservé, qui se préoccupe avant toute technique, il est un peu obligé de suivre parce que sinon, il se fait complètement distancer.
C'est d'ailleurs Pathé qui décide d'aller à la conquête des États-Unis d'abord.
Oui, Pathé commence au début du XXe siècle à construire des studios à New York, puisqu'à l'époque, hein, le cinéma américain, le cœur du cinéma américain, c'est New York. Ça va basculer vers Hollywood, on va dire, une dizaine d'années plus tard, entre 1915 et 1920 à peu près. Et à cette époque, Pathé prend le coq pour logo, pour bien montrer qu'il est français, voilà, le côté un peu patriotique. Et Gaumont prend la marguerite en référence à sa mère, qui s'appelait Marguerite. Ah, c'était un bon fils, visiblement.
Pathé a quand même toujours un petit coup d'avance, on le sent, mais ce qui pousse Gaumont à se surpasser et à innover aussi.
Oui, Gaumont, alors même si c'est vrai qu'il est moins flamboyant que Pathé et moins audacieux, il lance quand même des innovations. Alors c'est un des précurseurs dans le dessin animé notamment. Même avant la Première Guerre mondiale, il commence à faire les premiers dessins animés. Et il innove aussi sur les salles de cinéma, puisqu'il crée le Gaumont Palace, hein, qui est à Paris, qui existe toujours, qui était à l'époque la plus grande salle de cinéma du monde. Et c'était assez important, puisque, on l'a dit, le cinéma, à l'époque, il était vu comme un art un peu inférieur. Hein. C'était pas le théâtre ou l'opéra qui, eux, avaient leur lettre de noblesse. Et donc, en donnant au cinéma une grande salle prestigieuse, qui a un peu des airs de salle d'opéra, le cinéma gagnait ses lettres de noblesse et disons avait une meilleure presse vis-à-vis de la bonne société. Donc en lançant cette grande salle, Gaumont propulse en fait le cinéma et aide l'ensemble du cinéma et change la vision qu'on avait du cinéma.
Oui, parce que là c'est le plus grand cinéma du monde.
Oui, la plus grande salle, en effet.
La plus grande salle du monde, donc du coup, évidemment, c'est de la bonne presse, là, pour le coup, pour le cinéma.
Oui, c'est une grande salle et une belle salle, donc on y va pour voir le film et pour être vu, pour serrer des mains, pour faire des mondanités, comme, un peu comme on va à l'opéra. Donc en fait, l'idée de cette grande salle, c'est de donner un peu au cinéma une apparence d'opéra, en tout cas sur la forme.
Et Gaumont innove aussi, par la suite, en faisant des adaptations.
Oui, ça va être un des premiers à faire des adaptations de romans, donc notamment Fantomas, qui va adapter.
Alors avec... pas le film qu'on imagine avec De Funès.
Après, voilà. Après, il y a eu le Fantomas avec De Funès et Jean Marais, qui d'ailleurs a aidé à lancer la carrière de De Funès, mais ça c'est beaucoup plus tard. Le Fantomas de l'époque, qui est une des premières adaptations d'un roman au cinéma, qui est fait par Gaumont.
Alors le duel entre Charles Pathé et Léon Gaumont, évidemment, draine le cinéma mondial, il le domine pendant de nombreuses années, mais c'est un autre duel qui va leur causer des soucis en fait.
Oui, en fait, le cinéma français dominait le cinéma mondial jusqu'en 1914, et le coup d'arrêt brutal, ça va être la Première Guerre mondiale, puisque les hommes sont appelés au front, les gens n'ont plus la tête à aller au cinéma, le matériel est réquisitionné pour l'effort de guerre, et donc l'industrie du cinéma français tourne à l'arrêt pendant 4 ans, et les Américains qui, eux, sont pas en guerre, ou en tout cas beaucoup plus tard et impliqués de manière beaucoup moins intense dans le conflit, le cinéma américain va vraiment prendre son envol à ce moment-là et complètement détrôner le cinéma français. Donc, Pathé, par exemple, pendant la guerre, essaie de tourner des films à New York pour continuer à vivre, à faire un peu des affaires à New York, Gaumont aussi. Mais on voit déjà que le centre de gravité se déplace. Pathé et Gaumont cherchent des débouchés à New York. Et donc, c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va faire s'effondrer le cinéma français et qui va permettre la domination toujours présente aujourd'hui du cinéma américain.
Oui, c'est vraiment à la fin de la guerre, vers les dernières années de la guerre, et à la fin de la guerre que la domination devient américaine.
Oui, puisque donc, quand la guerre s'arrête, les hommes sont disponibles pour travailler, les matières premières peuvent être utilisées pour le cinéma, mais les Américains ont pris tellement d'avance, notamment à Hollywood, qu'ils ont créé des studios énormes, ils ont des moyens bien supérieurs désormais à Pathé et Gaumont, et ils ne peuvent plus rivaliser en fait. Et en quelques années, la domination du cinéma mondial passe de Paris à Los Angeles.
Ils sont tellement persévérants que quand même, ils continuent tous les deux à se battre. Bon, plus en leader, mais ils continuent à se battre et à sortir des films.
Oui, alors ils continuent dans le cinéma. Ils dominent plus le cinéma. Ils prennent un peu le créneau qui est un peu le créneau du cinéma français aujourd'hui, qui est plus le cinéma, on va dire, d'arrêt d'essai. Et puis les grandes productions sont plutôt américaines. Ils continuent à essayer d'innover. On peut penser en 1922, le Pathé Baby, qui était... en fait, une sorte de petit caméscope déjà à l'époque, qui a eu un succès honorable, mais sans permettre à Pathé de revenir vraiment sur le devant de la scène du cinéma mondial. Donc, c'est deux entreprises qui ont continué dans le cinéma, mais qui n'étaient plus les leaders, clairement.
Et donc, finalement, Pathé et Gaumont, petit à petit, se retirent du cinéma.
Oui, ils se retirent du cinéma et ils deviennent même amis, puisque tous deux se retirent sur la Côte d'Azur, où s'était aussi retiré un certain Louis Lumière, qui les connaissait tous les deux et qui va les faire se rencontrer, puisqu'en fait, ils s'étaient peu rencontrés. Et tous les trois vont devenir amis et vont finir leur jour comme une bande de copains sur la Côte d'Azur.
Oui, en fait, c'était une compétition plutôt saine.
Une compétition très saine, puisqu'elle leur a permis à chacun de se dépasser, de prendre des idées. Elle les a obligés à innover, donc c'était une compétition dans le bon sens du terme.
Pathé et Gaumont sont désormais deux noms indissociables du cinéma français, mais encore du cinéma mondial. Et surtout, c'est un exemple de compétition qui a réussi à dynamiser un secteur, le secteur du cinéma. Merci Sylvain.
Merci à toi Mickaël.
Sylvain, évidemment, pour retrouver plein d'histoires intéressantes dans ta série de livres que tu as sorti chez Henrik B. Éditions sur ces entrepreneurs atypiques ou légendaires. Et puis sinon, on se retrouve nous ensemble tous les 15 jours sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio pour le podcast Entrepreneurs de Légende. À bientôt.
CDI Podcast. Entrepreneurs de Légende.